Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les Nations Unies et l'Europe ont un objectif, obliger la Libye à retrouver un gouvernement central légitime qui remettrait de l'ordre dans le pays et pourrait faire appel à une communauté internationale prête à l'y aider. Rarement, les Occidentaux et l'ONU ont mis autant de volontarisme pour imposer une solution politique à un pays en chaos. C'est dans ce contexte que prend tout son relief une rencontre entre le ministre britannique des Affaires étrangères et le ministre français de la Défense la semaine dernière. Les deux hommes ont évoqué la constitution d'une force conjointe franco-britannique en vue d'une éventuelle intervention en Libye. Au grand dam des internautes arabophones de la région qui y sont farouchement opposés, nous verrons cela avec notre invité, spécialiste des représentations sur le web. À suivre notre revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Les réseaux sociaux sont extrêmement actifs dans le monde arabe. Ils ont, on le sait, tenu un grand rôle lors des printemps en 2011, notamment en Égypte. L'Arabie saoudite, qui est l'un des pays où on les utilise le plus, a été récemment aux prises avec la cybercriminalité, puisque le compte Twitter de son ministère de l'Éducation a été piraté par un groupe de hackers protestant contre le chômage des jeunes. Ailleurs aussi, les réseaux sociaux s'activent. En Tunisie, pour relater une manifestation de lycéens contre le harcèlement sexuel. En Cisjordanie, pour faire état d'une grève de la faim de prisonniers palestiniens dans un centre de détention israélien. Ici, on moque le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe. Là, on commente les attentats meurtriers de Bruxelles. Surtout, Internet véhicule des représentations qui souvent sont bien éloignées de la réalité. C'est particulièrement le cas en Libye. Bonjour Isabelle Feuerstoss.
Bonjour.
Docteur en géopolitique, pour les besoins de vos recherches sur le monde arabe, vous suivez très attentivement ce qui se passe sur le web arabophone. Alors concernant la Libye justement, le cybermonde arabophone commente-t-il la crise actuelle ?
Ah oui, bien sûr. Alors, il faut bien distinguer hein, sur le cybermonde arabophone, différents acteurs et puis surtout différents supports. On a les médias en ligne, on a Twitter, on a Facebook et puis bon bah tous les autres réseaux qui sont quand même utilisés de moindre ampleur, on va dire. Donc, la Libye intéresse énormément les internautes en règle générale. Ce qu'on peut noter, c'est que ce sont surtout les médias en ligne, donc les médias arabophones en ligne, qui traitent énormément de cette problématique. Alors, qui sont-ils, ces médias? Donc, on distingue là aussi voilà, les médias locaux, hein, donc libyens, mais plutôt qui sont proches des différentes parties en présence, les parties
Tobrouk ou Tripoli.
Voilà, et puis d'autres également, parce que si ça s'arrêtait à cette bipolarisation, ça serait quand même assez simple, mais c'est plus complexe. Il y en a d'autres, et qui sont particulièrement actifs donc sur Internet. Bah, on en entend plus parler sur Internet que, si vous voulez, dans les médias officiels ou la presse papier. On a également donc des médias, on va dire, plus pan-arabes. Bon, les médias classiques hein, qui diffusent sur leur site Internet comme Sharq al-Awsat et tout genre de choses hein, que vous connaissez bien. Et puis, on a des médias donc originaires d'autres pays et certains sont plus nombreux que d'autres, et notamment donc sur la question libyenne, les Égyptiens sont très 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 nombreux, et puis je dirais donc au deuxième rang on a les Saoudiens et plus généralement les Émiratis, mais donc un Égyptien et deux Saoudiens.
Alors comment s'intéressent-ils précisément à la situation interne? Est-ce qu'ils prennent parti?
Très souvent, ils prennent parti. Alors, si on parle des Égyptiens, on voit le prisme qui revient presque constamment, c'est Sisi. Donc, généralement, ils relayent, si vous voulez, la position officielle du maréchal Sisi sur la question libyenne et notamment son positionnement par rapport au général Haftar qui dirige l'opération Karama. Donc, Sisi a pris position, d'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, contre donc une intervention étrangère. Une nouvelle intervention étrangère, mais plutôt pour l'armement de cette partie sur le terrain.
Alors justement, vous parlez d'intervention étrangère. Est-ce que cette possibilité d'intervenir pour des pays étrangers, qu'ils soient d'ailleurs régionaux ou internationaux, est-ce que c'est très présent sur le net?
C'est absolument omniprésent. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la dimension interne, locale, libyenne est quasi absente de ces médias en ligne. Là, j'aimerais faire quand même un petit aparté parce que ça peut paraître aux auditeurs assez banal, des médias en ligne. Peut-être, ils pensent que c'est de l'ordre de 10, 20 médias. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On fait face à des centaines et des centaines de médias en ligne. Et je pense que c'est relatif au fait que sur le terrain, souvent, il s'agit de d'états donc corrompus et puis liberticides. Et donc, les gens créent énormément de comptes et de sites d'informations extrêmement riches, extrêmement alimentés. Et donc, on se noie un petit peu sous tous ces articles et donc ces nouveaux sites qui apparaissent en permanence. Donc ça, c'était voilà, une petite chose que je voulais rappeler.
Mais est-ce que ces sites font remonter aussi de l'information très, très locale, par exemple des milices, des tribus qui sont très présentes, évidemment, en Libye ?
Extrêmement peu. Extrêmement peu, ou sinon c'est souvent rattaché à Daesh, bien entendu. Mais sinon, non, justement, ils se concentrent sur essentiellement l'aspect international ou national, mais avec toujours, si vous voulez, l'interférence internationale sur le national. Et donc, pour revenir à votre question initiale, oui, les ingérences étrangères, et notamment occidentales, sont extrêmement, extrêmement relayées, commentées, débattues. Et je dirais que c'est le premier thème qui revient.
Et elles sont condamnées ?
Alors, en règle générale, une fois de plus, il faut distinguer les acteurs. Hein, de les représentations varient hein, forcément en fonction du niveau national. Donc, si ce sont des Libyens, si ce sont des Égyptiens ou autres. Mais en règle générale, pour les Libyens, quels qu'ils soient, c'est effectivement condamné. On ressent une énorme inquiétude, une angoisse en fait face à ce que eux ils ressentent comme une intervention occidentale imminente. La plupart des représentations qui sont présentées sont des représentations négatives de l'Occident. Voilà, l'Occident va une fois de plus intervenir pour ses propres intérêts, mais en rien pour mettre fin au chaos libyen. Au contraire, cela va accentuer les problèmes internes. Ça ressort énormément. Et puis aussi, si vous voulez, c'est lié directement à l'actualité nationale et ce nouveau gouvernement hein, de réconciliation qui, donc, aux yeux de très nombreux médias online, mais également sur les réseaux sociaux, ne serait qu'un instrument hein, de l'Occident, et notamment des États-Unis, de la France, et de l'Italie et de la Grande-Bretagne, pour légitimer leur prochaine intervention militaire sur le terrain, puisque ils partent du principe qu'il n'y aura pas de vote à l'ONU, et qu'il faut qu'un gouvernement officiel demande en fait à ces États de manière officielle d'intervenir militairement sur le territoire libyen.
Justement, cette intervention des Nations Unies, la création de ce troisième, voire peut-être quatrième gouvernement en Libye, ça aussi c'est très commenté sur les réseaux sociaux locaux.
Tout à fait. Ça revient, si vous voulez, continuellement, tous les jours, en masse. Hein, c'est de l'ordre, on a des centaines et des centaines d'articles. Et également moins de tweets, hein, forcément, parce que, bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Twitter est très, très peu actif en Libye et sur les questions libyennes. Donc, c'est surtout donc, les médias et également Facebook qui nous intéressent. Mais donc, ce gouvernement, bien sûr, a fait couler énormément d'encre. Et en règle générale, ce qui ressort hein, de tout ce qu'on a lu, c'est que sur, en tout cas, le web arabophone, il est quand même vu relativement de manière négative. Ça, c'est sûr.
Alors, que pense le web également de la présence de l'État islamique et comment cela émerge-t-il sur les réseaux sociaux ?
Alors, clairement, pour l'État islamique, donc, il y a également énormément d'articles et sur Twitter, on arrive à avoir certains résultats, mais une fois de plus, ils sont très faibles hein, par rapport à ce qu'on peut avoir comme masse sur les médias online. Bon, c'est négatif, hein, bien sûr, en règle générale, on a jamais trouvé un seul article qui était positif quant à cette question. Toutefois, en fait, les gens se posent beaucoup de questions quant à leur présence et comment se fait-il qu'ils s'étendent autant. Et c'est souvent mis en relation, en fait, donc avec la première intervention militaire occidentale en 2011. Beaucoup ont l'impression d'avoir été abandonnés ensuite. Et il voit cela comme une conséquence, de cette intervention et du chaos qui s'est mis en place suite à l'abandon donc occidental du dossier libyen, et également comme une conséquence des frappes qui ont lieu en Syrie et en Irak et qui feraient fuir en fait beaucoup de combattants et qui rentreraient notamment en Libye. Mais c'est toujours mis en relation donc avec des dossiers internationaux.
Est-ce qu'on peut établir une carte des pays voisins qui soutiendraient tel ou tel parti ? Alors on pense évidemment à l'Égypte qui soutiendrait la région de Tobrouk, mais qui soutient par exemple la région de Tripoli ? Qui soutient le dernier gouvernement ?
Alors attention, ce ne sont pas forcément les régions et les gouvernements qui sont soutenus en l'occurrence de ce qui ressort du web, parce que je souligne bien que là moi je ne parle que de ce qui ressort du web et pas forcément sur le terrain, ce ne sont pas forcément les réalités, on est bien d'accord. Donc premièrement, le gouvernement de Tobrouk n'apparaît pas énormément soutenu dans les médias, et c'est vraiment Haftar, donc le général de l'opération Karamé, qui est l'allié de Tobrouk, mais qui s'en émancipe également, qui est donc très soutenu par Sissi. Alors, une carte des représentations qui sont véhiculées par le web arabophone, oui, on peut en faire une, mais elle serait assez étrange parce que on a remarqué que, par exemple, le positionnement des pays africains frontaliers, donc avec la Libye, ne sont pas du tout relayés dans la presse arabe. On peut comprendre pour des pays qui ne sont pas arabophones, mais pour certains, bon, même le Soudan, ils sont arabophones, et donc c'est assez incompréhensible, ce désintérêt total vis-à-vis de ces pays. Ces pays ne ressortent en fait que sur la question du Fezzan, donc la région du Fezzan, le sud Libye, et donc toujours en relation avec la multitude de trafics régionaux, si vous voulez. Là, on va aller voir un petit peu apparaître, mais on sait très très peu de choses, si vous voulez, sur leur représentation, comment ils voient tout ce qui est en train de se jouer dans cette région qui est séparatiste et ailleurs. En revanche, bon, l'Algérie, la Tunisie, tout ça, et l'Égypte, et puis plus loin, donc les pays du Moyen-Orient, oui, on peut très bien cartographier leur positionnement.
Merci Isabelle Feuerstoss, docteur en géopolitique, spécialiste de la Syrie et du monde arabe.
Merci.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la bataille d'Alep est le thème qui domine les manchettes de vos journaux.
Oui, une bataille où le régime Assad et l'opposition armée ont mis toutes leurs forces dans l'espoir de remporter une victoire déterminante sur le terrain qui permettrait de dominer les négociations politiques. En tous les cas, c'est ce qu'estiment plusieurs journaux arabes. Alors, une bataille qui, selon la presse, a toutes les cibles permises, d'un côté comme de l'autre, on n'épargne pas les civils. L'annonce par les États-Unis de l'envoi de 250 hommes sur le terrain n'impressionne pas aussi les analystes arabes. Ils parlent de la piqûre de moustique d'Obama contre les barils explosifs d'Assad, selon Al-Quds Al-Arabi. Les journaux soulignent enfin la montée en puissance de la coopération militaire entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, une coopération qui vise officiellement à combattre le groupe État islamique, mais qui pourrait aller au-delà, selon certains analystes.
Michel, c'est la Pâque juive et l'info tourne au ralenti. Il est donc question d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup habituellement, la centrale nucléaire de Dimona.
C'est probablement le titre qui a le plus attiré les regards au cours de cette semaine pascale. Il a barré la une du quotidien Haaretz. Des experts ont découvert des carences dans le cœur du réacteur atomique de Dimona. Eric, pas moins de 1537 défauts. Il faut dire que Dimona, comme le rappelle Haaretz, est en activité depuis 1963. C'est pratiquement la centrale nucléaire la plus ancienne au monde. Les réacteurs de ce type ont généralement une durée de vie limitée à 40 ans. Le journal souligne le fait qu'Israël n'est pas signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et n'est donc pas soumis au régime du contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tous ces détails sont l'objet d'une étude dont les résultats ont été publiés lors d'un forum scientifique organisé à Tel Aviv ce mois-ci et publié par Haaretz précisément au moment où l'on observait le 30e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
La presse, Michel, s'intéresse aussi aux élections américaines et les Israéliens ne savent pas trop s'ils doivent se réjouir des récentes déclarations du candidat républicain Donald Trump.
Pour Yedioth Aharonot, c'est le monde revu et corrigé par Donald Trump. Le journal parle aussi du combat des titans et Eric, les journaux examinent ce qu'ils qualifient de franc-parler de Donald Trump et son discours de cow-boy, notamment cette petite phrase dans laquelle le candidat affirme qu'Obama n'est pas l'ami d'Israël. Un commentateur résume la situation à ses yeux, c'est peut-être bon pour Israël, mais c'est inquiétant pour le monde. Marive titre simplement « Trump contre Obama » et pour Israël Ayom, Donald Trump est milliardaire pour ce qui est de l'argent, mais millionnaire seulement pour les voix au scrutin. Et puis la presse israélienne salue au passage la lettre de 83 sénateurs américains demandant l'augmentation de l'assistance économique à Israël.
Alexandre, le syndicat des journalistes dont nous parlions la semaine dernière part en guerre contre le ministère de l'Intérieur égyptien.
Oui, et près de 200 journalistes ont manifesté devant le bureau du procureur général égyptien pour réclamer l'engagement de poursuites contre le ministère de l'Intérieur. Alors le syndicat décrit le 25 avril, qui a été une journée de manifestations contre le régime et qui ont été réprimées par le ministère de l'Intérieur, de journée noire pour la liberté d'expression. Alors, selon le syndicat, il y a eu pas moins de 47 journalistes qui ont été interpellés, tandis que des centaines d'autres ont été empêchés d'exercer leur métier. Par ailleurs, le syndicat accuse la police d'avoir laissé faire des bandes de casseurs pro-régime qui ont tenté d'envahir le siège des journalistes au Caire. Un siège qui, 10 jours auparavant, avait réuni les opposants au président Sissi.
Michel, la presse israélienne se passionne pour une affaire de meurtre en série.
Oui, c'est l'affaire que les Israéliens suivent probablement avec le plus grand intérêt, du moins à en croire la taille des titres. Assassin et violeur présumé, il a été écroué il y a un mois. Son ADN l'a lié à plusieurs scènes de crimes et la police lance maintenant des appels à témoignages. À ce stade, on estime qu'il a tué au moins 4 femmes.
Un constat, Michel Paul, le kibboutz, le village collectif, est en voie de disparition.
Haaretz consacre un dossier au kibboutz, ou du moins à ce qui reste de cette aventure collective. Il s'avère que dans un souci de survie, ce bastion de la laïcité adopte des mesures pour attirer les pratiquants, comme des salles à manger cachères, la séparation entre sexes dans les piscines, et aussi de nouvelles synagogues dans les villages collectifs. Quelque chose de tout à fait nouveau.
Alexandre, un film romantique égyptien fait le buzz cette semaine.
Oui, le film est tiré du roman égyptien Hepta ou La Dernière Conférence, un best-seller de 2014 qui a été réédité plus de 30 fois. Un film qui, comme le roman, parle de l'importance de l'amour dans la vie de tout le monde, jeunes et vieux, femmes et hommes, riches et pauvres. Une œuvre qui change des films d'action ou des comédies farces qui dominaient le grand écran jusqu'à présent. Le succès est tel que les producteurs ont quasiment doublé le nombre de salles de projection. Un film qui, selon certains critiques, reflète la soif de romantisme d'une société égyptienne fatiguée par 5 années de violence et de désordre politique.
Allez, on termine avec votre photo du jour, Michel.
Eh bien, ce sont des photos des Israéliens qui passent cette semaine dans la nature, comme le veut la meilleure tradition pendant la semaine pascale.
À noter que la Pâque orthodoxe, c'est demain, 1er mai. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, Jérémy Bosset et Richard Rifono. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, dans un court instant, un nouveau journal sur RFI.
en sol majeur.